Bonsoir, enchanté de me trouver une nouvelle fois dans ces sessions de formation. Je ne suis pas là pour faire l'article de l'IHEMR, mais vous avez un programme conséquent, intéressant, et d'ailleurs, sachant que certaines conférences vous ont déjà été données, d'autres viendront, je me bornerai dans certains cas à des références un peu plus brèves. Donc, comme vous m'y invitez, je voudrais commencer par vous présenter cet Observatoire national de la laïcité que j'ai l'honneur de présider, en effet, depuis avril 2013. Ce qui est intéressant, au-delà de l'histoire récente, c'est sa genèse. L'idée d'un observatoire de la laïcité pour établir un état des lieux, des sujets touchant à la laïcité, des difficultés, des problèmes, des solutions, est une idée du président Chirac. Et nous vivons encore aujourd'hui sur un décret qui a été signé vers la fin de la présidence de Jacques Chirac par le Premier ministre de l'époque, Dominique de Villepin, et le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. Et puis, le président Sarkozy, ayant succédé au président Chirac, n'a pas retenu l'idée d'un observatoire de la laïcité. Il a installé une mission laïcité dans le Haut Conseil à l'intégration. Et quand le président Hollande a été élu en 2012, il a repris l'idée de l'observatoire de la laïcité, et il a repris le texte du décret, très bref et très général, qui avait été préparé en 2007, et signé même sous la présidence de Jacques Chirac. Je dis ça parce que c'est intéressant. Ces circonstances historiques sont intéressantes pour montrer que la laïcité est un enjeu qui rassemble, devrait rassembler les républicains et qui n'est pas un enjeu de bataille politicienne ou qui ne devrait pas l'être. L'Observatoire de la laïcité est une instance consultative. Ça veut donc dire que nous donnons des avis que le gouvernement ou les personnes à qui nous donnons des avis n'est pas obligé de suivre. Nous sommes assez souvent suivis, plus souvent suivis que pas suivis. La composition de l'Observatoire est intéressante. C'est un organisme pluripartisan. C'est un organisme placé auprès du gouvernement, mais de fait indépendant. Ça veut dire que depuis notre création, nous avons écrit ce que nous voulions sans aucune gêne, interférence ou pression. Nous sommes pluripartisans, je le disais. Nous avons 4 parlementaires, 2 députés, 2 sénateurs. 2 hommes, 2 femmes, 2 majorités, 2 oppositions. Nous avons ensuite 7 membres de droit qui sont les représentants des ministères les plus directement concernés par les questions de laïcité. À vrai dire, ils le sont tous, et nous travaillons avec beaucoup d'autres ministères, l'intérieur, l'éducation nationale, la justice, l'outre-mer, la fonction publique, la solidarité, etc. Et puis, en plus des 4 parlementaires, des 7 représentants des ministères, généralement à haut niveau, souvent directeur des affaires juridiques, secrétaire général, directeur d'une direction importante. Pour le ministère de l'Intérieur, c'est en général M. Arnaud Chaumas, chef du bureau des cultes, que vous entendrez bientôt, et qui vient et avec qui on travaille en étroite liaison. Et puis 10 personnalités qualifiées, nommées à raison de leurs compétences, de leur intérêt pour la laïcité, qui sont d'une extraordinaire diversité d'histoire, d'angle d'approche, d'implication, de forme d'implication dans la laïcité, et c'est pour nous, dans notre travail collectif, une vraie source de richesse, et je pense que ça permet aussi d'avoir des avis, des recommandations, des études d'une meilleure qualité. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais il y a par exemple Alain Krisnart, qui est conseiller d'État honoraire et qui a bien d'autres fonctions. Il y a Alain Bergougnoux, qui est inspecteur général de l'éducation nationale, comme également une autre de nos collègues, Laurence Leufel. Il y a Nathalie Appéré, qui est la maire de Rennes, qui a travaillé depuis longtemps sur les questions de laïcité et qui a été élue meilleure maire du monde. Nous ne sommes pas responsables de ça, mais nous en tirons évidemment un peu de fierté amicale. Nous avons Abdennour Bidar, qui est assez connu, philosophe musulman, qui écrit une chronique dans l'Obs et qui a publié plusieurs livres, dont un très beau livre sur la fraternité, les tisserands, des gens qui retissent des liens, et qui a fondé, à titre personnel, même si c'est lié à l'histoire de l'Observatoire, un mouvement qui s'appelle Fraternité Générale. Et j'ajoute qu'Abdennour Bidar, inspecteur général de l'Éducation nationale, comme Alain Bergougnoux, Laurence Leufel, ont participé, à titre personnel et pas seulement à titre de l'Observatoire, aux différents textes qui ont été établis ces 5-6 dernières années. Nous avons également Armelle Carminati, qui est présidente de la commission du MEDEF de l'innovation sociale et managériale. Nous avons Daniel Maximin, qui est un écrivain et poète antillais. Nous avons Dunia Bouzard qui a commencé sa vie professionnelle comme éducatrice de jeunes enfants à la protection judiciaire de la jeunesse, puis qui est devenue docteur en sociologie et en anthropologie, qui a monté un cabinet de conseil et de consultants, un des meilleurs sur toutes les questions de médiation, que ce soit dans les associations, les entreprises ou les administrations, et qui a fondé le premier centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam. Voilà, je ne vais pas tous et toutes les énumérer. Il y a également une membre de juriste de droit privé, membre de la commission consultative des droits de l'homme. Donc, nous travaillons à la demande du gouvernement ou de notre propre initiative. Nous avons une capacité d'autosaisine. Nous pouvons aussi donner des avis, des conseils, faire des interventions auprès du Parlement, ce que nous avons fait, de collectivités locales, d'associations ou d'entreprises. Nous avons contribué à un effort de formation de tous les acteurs de la laïcité, je dirais depuis les citoyens jusqu'aux responsables divers, qui nous paraissait capital, qu'il faut continuer. Et nous avons contribué à former 240 000 personnes depuis notre création, 30 000 en particulier, avec le Commissariat général à l'égalité des territoires et le Centre national de formation des personnels territoriaux, formation de formateurs pour les acteurs de la politique de la ville. Il y a 30 000 qui ont été formés en 3 ans, et ça met en formation et donc en travail pour la formation et pour la suite des acteurs très divers, des travailleurs sociaux, des directeurs de collectivités locales, des gens de l'éducation nationale, des associatifs, qui nous ont dit qu'à 97% que cette formation, qui dure en principe 3 jours, leur était utile dans leur vie professionnelle. Alors on n'a pas cru à ce score, si j'ose dire, stalinien, et donc un bureau d'études a vérifié, toute précaution scientifique étant prise, y compris qu'au bout de 2-3 ans, ils conservaient cette même satisfaction. Pour établir le diagnostic dont je vais vous parler dans un instant, qui est notre première mission, nous avons des retours des administrations et puis beaucoup de déplacements de terrain. Essentiellement le rapporteur général Nicolas Cadet et moi-même, mais aussi, suivant les sujets d'autres membres, on a par exemple, un peu si je puis dire en symétrique, d'Arnaud Chaumas, Jean-Christophe Possel du ministère des Affaires étrangères, ambassadeur, qui est le conseiller pour les affaires religieuses, non ancien, et qui intervient très souvent à l'étranger, avec une double casquette, celle de représentant du ministère et celle de représentant de l'Observatoire. Donc nous avons fait à peu près 130 déplacements de terrain par an depuis notre création, institution par le président François Hollande, renouvellement par anticipation par le président Emmanuel Macron. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un énorme besoin de formation, d'information. Il y avait beaucoup d'ignorance, beaucoup de confusion, parfois entretenue à dessein par les uns ou par les autres. Et donc, parmi nos actions qui, je crois, ont été les plus utiles, que nous n'avions pas prévues au départ, nous avons publié des petits guides. Je vous ai laissé là des exemplaires papier, bien entendu, tout ce dont je vous parlerai, est sur notre site laïcité.gouv.fr, librement consultable et téléchargeable. Et nous considérons que nous avons un devoir d'information citoyenne. Donc nous mettons un maximum de documents, par exemple les comptes rendus des auditions. Nous auditionnons au moins une fois par an les représentants des principaux cultes, des principales obédiences maçonniques, des associations d'éducation populaire, des associations et mouvements historiques de la laïcité, comme la Ligue de l'enseignement, la Ligue des droits de l'homme, la Libre Pensée, et toutes leurs interventions, de même qu'un certain nombre de notes internes, d'avis et de débats, sont mises sur le site de façon à ce que chacun puisse les utiliser et s'en saisir. Donc vous voyez que ce sont des brochures relativement minces qui font 15 à 20 pages. Il y en a une pour les collectivités locales, il y en a une pour l'entreprise privée, il y en a une pour les établissements publics de santé, il y en a une qui parle des libertés et interdits dans le cadre laïque. C'est plutôt de dire qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, donc qui est plus général. Une autre également plus générale qui s'appelle le cadre légal permettant de sanctionner les agissements contraires aux exigences minimales de la vie en société. C'est une formule du Conseil constitutionnel. Et c'est pour dire qu'il y a des tas de sujets, par exemple tout ce qui touche au respect de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui n'est pas directement un problème de laïcité, sur lequel on n'est pas obligé d'invoquer la laïcité, mais sur lequel il existe des outils juridiques qu'il faut connaître et dont il faut se servir. Également les associations socio-éducatives. Tous nos guides se présentent suivant le même schéma, le même plan. Premièrement, que dit le droit ? Nous sommes dans un état de droit et il faut partir de cela, ce qu'on ne fait pas toujours assez dans notre système français, où on a tendance à réagir en fonction de ses convictions qui sont respectables, de ses émotions qui peuvent être légitimes, mais nous devons sans arrêt rappeler le droit. Et j'en profite pour dire que nous n'incarnons pas une vision de la laïcité différente d'autres visions. Pour nous, il y a une seule laïcité dans notre travail, et une seule vision, c'est les droits, c'est le droit. C'est la jurisprudence, c'est les règles qui ont été dégagées. Ce n'est pas un choix idéologique de dire il faut préférer telle ou telle conception de la laïcité, même si dans le débat public, nous sommes amenés aussi, comme d'autres, à nous exprimer. Mais pas au nom d'une conception particulière. L'état du droit, c'est les lois, les règlements, les circulaires. Ensuite, il y a que dit la jurisprudence. La jurisprudence du Conseil d'État d'un côté, de la Cour de cassation de l'autre, est extrêmement abondante, extrêmement précise et pleine d'instructions, pleine d'enseignements. Et puis la troisième partie, que faire en cas de difficulté, en cas de conflit ? Soit sur des solutions qui nous paraissent se dégager clairement du droit, soit se dégager de l'esprit, notamment de la loi de 1905 de séparation des Églises et de l'État, soit issu des bonnes pratiques que nous avons pu repérer sur le terrain, et j'en donnerai un exemple tout à l'heure. Nous intervenons aussi, je l'ai dit, à la demande de beaucoup d'autres acteurs, pour des formations, pour des conseils, pour aider à établir des chartes, des règlements intérieurs, encore une fois, publics, privés, collectivités locales, associations. Je prends un exemple qui est intéressant parce qu'il se situe dans un contexte difficile, qui n'est pas public, ça n'est pas non plus un secret, mais nous n'avons pas souhaité le rendre public à ce stade. J'ai été contacté il y a 9 mois par le maire de Sevran, où il y a un certain nombre de problèmes récurrents, dont un problème qui a fait un peu de bruit dans la dernière campagne présidentielle sur des femmes qui ont été interdites d'être servies dans un restaurant, en l'occurrence dans un bar PMU. Sur les faits, c'est compliqué, mais c'est pas de ça dont le maire voulait nous parler. Le maire a dit, on a toute une série de débats entre nous, au conseil municipal, avec les acteurs extérieurs, avec les personnels municipaux, et on voudrait bien que vous nous fassiez une séance de formation pour tout le conseil municipal d'une journée. Ce que j'ai fait, c'était particulièrement passionnant à cause de la diversité considérable des acteurs. Il y avait du PC, du Front de Gauche, de la France Insoumise, Clémentine Autain qui se situait quelque part là-dedans, des radicaux de gauche, des socialistes, des Républiques en marche, des gens de droite et même, je pense, un peu plus que de droite. Et on a pu travailler grâce au fait que le maire a su créer un climat convivial, fraternel. Ça va déboucher probablement sur une charte de l'action municipale et sur également des actions en direction des personnels. Donc c'est une action qui me paraît très exemplaire, mais on en parlera quand la mairie voudra le faire pour ne pas les gêner dans le processus d'élaboration. Nous remettons également, enfin, en général, le ministre de l'Éducation nationale, un ministre remet le prix de la laïcité de la République française. C'est un appel à projet que nous faisons depuis 4 ans maintenant. Peut candidater une personne isolée, une association, un collège, un lycée, une entreprise, une collectivité locale, un établissement scolaire. Et nous avons une centaine de cas par an tout à fait remarquables, avec un jury composé pour moitié de membres de l'Observatoire, pour moitié de personnalités extérieures, des chercheurs comme Philippe Portier, que vous avez entendu dans le cadre de ce cycle de formation. Et nous sommes impressionnés par la qualité de ce qui se fait dans les secteurs les plus divers. Alors, je vais vous donner 2 exemples du dernier prix de la laïcité de la République française. Nous avons été obligés de faire des mentions pour les associations, pour les établissements scolaires, pour les hôpitaux, pour ne pas donner un seul prix. Mais enfin, il y a quand même le prix qui a été obtenu par l'association Promo Femmes, qui est une association qui accueille des femmes en situation de migration provenant de plus d'une 60aine de pays depuis 1994 à Bordeaux et dans les environs. Qu'est-ce qu'elles ont fait ? Après une interrogation, c'est surtout des femmes, en interne sur la laïcité, elles ont rédigé une charte à destination des femmes accueillies et avec elles l'ont traduite dans l'ensemble des langues parlées. Donc une explication, une formation de ce que c'est que la laïcité pour ces femmes en situation de migration. Elles ont également fait une pièce de théâtre d'une très grande qualité sur la laïcité et sur le respect des différences qui tourne un peu partout et au-delà de la région bordelaise. Et parmi les établissements scolaires, je voudrais vous citer le lycée professionnel Jacques Dol d'Antibes. C'est un lycée de maintenance nautique, maintenance maritime. Eux, ils ont réalisé un clip, un rap, avec paroles, chansons, chorégraphie sur la laïcité, un texte qu'ils ont écrit eux-mêmes, qui est juridiquement parfait. Et ils tournent autant qu'on le souhaite et ils ont l'intention de faire un nouveau clip, peut-être de concourir à l'Eurovision. Ils sont venus d'Antibes, donc vous voyez à peu près la journée de déplacement pour arriver à une heure raisonnable à Paris avec les tenues permettant de nous montrer leur rap. Voilà, donc des actions encore une fois extrêmement diverses. J'en viens à notre diagnostic. Notre première mission, c'est je disais, d'établir un diagnostic aussi rigoureux, scientifique, impartial que possible dans un sujet compliqué qui suscite des conflits, des désaccords et des passions, et dans lequel il est parfois un peu difficile de se retrouver. Nous avons trois traits que nous avons trouvés dans la situation depuis l'origine et qui n'ont fait que se renforcer, je dirais, les points positifs comme les points négatifs. Premier point positif, il y a de plus en plus de personnes, y compris de simples citoyens, qui se sont appropriés les questions de laïcité. Nous avons été extrêmement surpris à l'occasion d'un sondage que nous avons fait faire par l'Institut Via Voice, qui a été publié au début de l'année, de voir que ce sondage commençait par un petit quiz, avec des affirmations comme « à l'école publique, les élèves ne peuvent pas manifester ostensiblement leur appartenance religieuse » ou « les fonctionnaires sont soumis au principe de neutralité » ou « l'obligation de neutralité s'impose au sein des entreprises privées ». Donc il s'agissait de dire vrai ou faux sur 11 questions. Sur 7 questions, il y a des réponses exactes. Et réponses exactes, à peu près quel que soit le niveau de formation, quel que soit le lieu d'habitation, quelle que soit la catégorie sociale, professionnelle, quelle que soit l'appartenance philosophique ou religieuse. Avec en plus, mais d'autres sondages le confirment, un attachement très fort à la laïcité. Donc ça, c'est quelque chose qui a changé, qui n'était sûrement pas vrai il y a 4-5 ans, et qui est tout à fait surprenant et une très bonne nouvelle. Alors bien entendu, c'est en partie une conséquence des attentats qui ont amené tout le monde à s'interroger sur le vivre ensemble, la laïcité, ce qu'elle permet, ce qu'elle interdit, mais c'est une conséquence très positive. Ce qui est par contre très négatif, et de plus en plus négatif, c'est l'accroissement des tensions, des crispations, pas forcément toujours des conflits, ça dépend des endroits, ça dépend des moments, sur non seulement la laïcité, mais le fait religieux, et la gestion des faits religieux. Ça s'explique en partie, à notre avis, par les tensions très vives qui traversent la société française, comme on le voit depuis un certain nombre de semaines, mais c'était visible avant. Ça s'explique aussi parce que ça touche, je terminerai ma conférence là-dessus, à des questions centrales sur qu'est-ce que c'est que l'identité d'une personne, ce que c'est que l'identité d'un pays, et puis l'exacerbation du débat public dans lequel, et les personnes interrogées par Via Voice l'ont relevé, ils sont à peu près les deux tiers à estimer que les médias ne parlent de laïcité que quand il y a des conflits. Ils sont à peu près la même proportion à estimer que la majorité des responsables politiques manipulent la laïcité dans les interventions. Deux affirmations qui me paraissent parfaitement exactes. Hélas, ce qui est réconfortant, c'est que les deux tiers des Français en sont conscients. Donc ils ne sont pas dupes et ils ne sont pas naïfs. Ce qui, encore une fois, rend le diagnostic un peu difficile, c'est qu'on a une hypertrophie des cas de conflit par le système médiatique, par ce qui remonte. Et heureusement qu'on a nos déplacements de terrain pour voir que même dans des quartiers très difficiles, je ne dis pas que tout est simple, loin de là, ni que les choses s'arrangent, ça dépend des endroits, mais il y a des réalisations formidables de la laïcité et du vivre ensemble. Donc, aggravation des tensions, des crispations à peu près partout. Troisième point, qui est le point sur lequel nous ne pouvons pas dire avec certitude, donner une certitude, une réponse. Est-ce qu'il y a plus d'atteintes à la laïcité aujourd'hui qu'hier? Alors, je vais vous donner les éléments d'appréciation que nous avons. Parce que ça dépend beaucoup de ce qu'on appelle atteinte à la laïcité, et ça dépend beaucoup de comment on la mesure. Je vais prendre un exemple dans le domaine de l'éducation nationale. Le ministre Blanquer a renforcé de manière très, très opportune, et nous l'avons salué, ce qui s'était fait sous les gouvernements précédents, qui avaient créé des référents laïcité dans toutes les académies, parfois dans les établissements scolaires. Ça a été complété par des équipes plus diversifiées. Vous pouvez avoir un CPE, un chef d'établissement, un professeur. Et ça a été complété par une équipe nationale de laïcité. Et donc, pour que les professeurs, les enseignants, les personnels de l'éducation nationale qui sont soumis à des pressions, qui sont en difficulté, puissent ne pas être abandonnés, avoir le sentiment d'abandon, il y a un numéro vert ou un mail où on peut signaler toute atteinte à la laïcité. Sur à peu près un an, il y a eu 932 atteintes à la laïcité, alors qu'il doit y avoir 60 000 établissements scolaires. C'est sûr que tout ne remonte pas. C'est sûr que tout le monde n'est pas encore habitué. Mais la proportion est surprenante. Elle est anormalement faible, elle est sûrement plus forte que cela, et on va le voir au fur et à mesure des années. Alors on a une autre indication dans le domaine de l'éducation nationale, qui est un sondage qui a été réalisé il y a à peu près 9 mois, à la demande du Comité national d'action laïque, qui réunit un certain nombre d'organisations, dont la Ligue de l'enseignement, qui est un peu le moteur. Et dans ce sondage, ce qui est très frappant, c'est que, je vais vous dire ce qu'il contenait, que vous pouvez voir sur le site du CNAL ou de la Ligue de l'enseignement ou sur le nôtre, qui est assez clair, mais ce qui est très frappant dans le débat politico-médiatique français, c'est que chacun a vu ce qu'il voulait y voir. n'a pas du tout remis en cause ses préjugés en fonction des résultats. Donc je caricature un peu en disant d'un côté, nous sommes soumis à une islamisation généralisée, et de l'autre côté, tout va très bien, Madame la Marquise. Je caricature naturellement, mais il y avait un peu de ça. Or, que dit ce sondage? Il dit que les préoccupations sont croissantes au niveau de l'école, par rapport au collège et au lycée. Et ça, c'est un phénomène nouveau, récent et préoccupant, y compris des contestations de cours. Il dit que les préoccupations sont croissantes et s'accroissent au niveau, ce qui n'est pas une surprise, mais les choses ne s'améliorent pas au niveau des quartiers de la politique de la ville. Donc ça, c'est le point négatif. L'autre point négatif, c'est que 71% des enseignants n'ont jamais eu aucune formation à la laïcité et que ceux qui en ont eu n'en sont pas enthousiasmés. Donc, d'un côté, préoccupation et tension, école, quartier prioritaire, lycée professionnel, enseignement professionnel aussi, plus que l'enseignement général. De l'autre côté, une question a été posée en demandant au personnel enseignant: est-ce que vous diriez que dans votre établissement, le climat sur la laïcité est plutôt tendu ou très tendu? Plutôt tendu, 8%, très tendu, 1%. Est-ce que vous diriez, au contraire, que le climat est plutôt apaisé ou très apaisé? Plutôt apaisé, 57%, très apaisé, 34%. Ce sont des chiffres étonnants. Quand vous voyez les questionnaires qualitatifs, vous comprenez ce que les enseignants interrogés mettent sous le côté apaisé, pas apaisé, contestation de cours, atteinte à la laïcité. Et il faut donc lire l'ensemble. En tout cas, ça semble montrer que le climat n'est pas un problème majeur dans une grande majorité d'établissements. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préoccuper énormément des autres endroits et qu'il ne faut pas donner des signaux de fermeté très clairs à tout ce qui est manquement à la laïcité, aux lois de la République. Mais sur le quantitatif, nous ne sommes pas capables de dire avec certitude qu'il y a plus d'atteinte à la laïcité. Nous avons la même indication pour les entreprises, avec un sondage qui est fait chaque année en liaison avec Armel Carminati, dont je vous parlais, qui montre que là, on interroge des DRH sur les atteintes à la laïcité par rapport aux situations qu'ils peuvent rencontrer. Ils trouvent un pourcentage qui n'évolue pas ou presque pas ces dernières années. Et ils considèrent majoritairement qu'ils sont maintenant mieux armés pour traiter les questions de faits religieux, puisqu'il n'y a pas la laïcité au sens neutralité, en tout cas pas de manière générale, dans l'entreprise privée. C'est vrai, nous l'avons pu le constater et y participer, que la plupart des grandes entreprises publiques et privées ont des règlements intérieurs, des chartes de la laïcité, des textes qui permettent d'y voir clair et une anticipation des problèmes. Je suis par contre beaucoup plus pessimiste en ce qui concerne les petites entreprises, qui n'ont même pas parfois de véritables DRH, encore moins de spécialistes juridiques, encore moins de spécialistes laïcité. Et donc nous avons suggéré à plusieurs reprises, avec insistance, aux organisations patronales de mettre en place, comme ça se fait dans les collectivités locales, dans les associations, les grandes associations d'éducation populaire, des référents laïcité par bassin d'emploi. Tout le monde m'a dit, excellente idée, le problème c'est qui fait quoi entre le MEDEF et les autres organisations patronales. Donc j'attends avec intérêt et impatience qu'ils veuillent bien se mettre d'accord, mais je ne peux pas le faire à leur place. Autre exemple, et je terminerai là-dessus, les hôpitaux. Il y a 2 ans à peu près, une enquête a été faite par la Fédération hospitalière de France, en liaison avec nous, qui ont interrogé des responsables d'établissements, hôpitaux ou cliniques, et qui ont posé une question qui nous avait semblé au premier abord un peu entortillée, pour parler familièrement. Avez-vous eu connaissance, au cours de l'année écoulée, la lumière vient, au cours, je ne fais pas de connotation religieuse, avez-vous eu connaissance au cours de l'année écoulée de problématiques liées à la gestion des faits religieux? C'était leur liberté. Cette question et celles qui ont suivi sont révélées extrêmement instructives. Réponse oui, 1/3, ce qui est énorme, ce qui a surpris la Fédération et ce qui nous a surpris nous aussi. Mais attendez les questions suivantes. Parmi ce tiers de cas, vous avez eu des problématiques liées à la gestion des faits religieux, combien de cas de conflit? 10%. 10% d'un tiers égale 3, quelque chose pour cent. Et ces cas de conflit se sont-ils résolus par le dialogue? Dans la majorité des cas. C'est bien l'image qu'on a. C'est qu'il y a beaucoup de tensions, beaucoup de préoccupations, mais qu'on ne peut pas dire avec certitude qu'il y a forcément beaucoup de conflits. Encore une fois, ça ne change pas la recommandation que nous faisons. Être absolument ferme et impitoyable pour le respect du droit en général, des règles de la République en général, et pas seulement du principe de laïcité. J'en viens maintenant à un petit point qui sera bref, parce que je crois que ça nous aide à comprendre nos débats actuels sur l'histoire de la laïcité. Vous avez eu Philippe Portier, donc moi je vais simplement, à toute allure, vous resituer, juste pour que vous l'ayez en tête, mais vous l'avez sans doute déjà en tête, quelques points. Quand je parle d'histoire de la laïcité, j'ai tendance à remonter à la Renaissance, ce qui surprend beaucoup de monde, puisque bien entendu le mot laïcité n'existe pas, ni même le concept. Pourquoi la Renaissance? Parce qu'il se produit, dans la Renaissance de l'Occident, il y a eu d'autres renaissances dans d'autres environnements culturels à d'autres époques, mais je prends celle qui est le plus connue chez nous. Il se produit ce phénomène extraordinaire que des hommes et quelques femmes se mettent à penser par eux-mêmes, remettent en cause les dogmes scientifiques comme les dogmes religieux. Et cette démarche, c'est la démarche laïque. C'est faire appel au raisonnement, c'est faire appel à la pensée, c'est surmonter les préjugés, les émotions. C'est la démarche laïque par excellence. Et donc la Renaissance est une forme de démarche laïque. Bon, bien entendu, il y a ensuite le mouvement des Lumières, c'est inutile d'y insister. Et puis, il y a la Révolution française. La Révolution française est très intéressante en ce que, là encore, le mot laïcité n'existe pas, le concept pas vraiment, même si le fait de passer l'état civil à l'État est déjà une forme de laïcisation de la société, du pays. Mais c'est à la Révolution française qu'est posé en fait le premier pilier de la laïcité, qui est la liberté. C'est l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit, pardon, c'est l'article 10, qui dit « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » La règle, c'est la liberté. Ça vaut pour d'autres formes de liberté publique, avec en changeant ce qu'il faut changer, liberté politique, philosophique, syndicale, liberté d'expression avec des règles particulières. Donc la limite, c'est l'ordre public. Et la deuxième limite, c'est en effet l'article 4 qui dit en substance que la liberté de chacun s'arrête là où elle met en péril la liberté d'autrui. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des débats au moment de la Révolution qui sont incroyablement modernes, notamment sur la question de savoir si on doit avoir une religion d'État ou pas, question qui traverse beaucoup de sociétés, beaucoup d'époques et beaucoup de pays sur le continent, sur le globe aujourd'hui, question qui a été présente dans tout le 19e siècle français. Catholicisme, religion de la majorité des Français, religion de l'État. Et je voudrais vous citer un texte assez peu connu de Mirabeau, qui date du 14 juin 1791, où il refuse de déclarer la religion chrétienne comme religion nationale. Et ses propos résonnent d'une manière incroyablement moderne. Il dit ceci: « De quelque manière que l'on envisage une religion, la dire nationale, c'est lui attribuer une dénomination insignifiante ou ridicule. Serait-ce comme juge de sa vérité, ou comme juge de son aptitude à former de bons citoyens, que le législateur rendrait une religion constitutionnelle? Mais d'abord, y a-t-il des vérités nationales? En second lieu, peut-il jamais être utile au bonheur public que la conscience des hommes soit enchaînée par la loi de l'État? » C'est tout l'esprit de la laïcité qui est exprimée à cet endroit-là. Bon, la Révolution française, les restaurations, les débats. Le débat, et il faut bien comprendre que ce n'est pas la même chose dans d'autres pays, c'est entre l'Église catholique et l'État. Et puis, quand la République arrive, entre l'Église catholique et la République. Et ce débat, ce combat idéologique, et parfois avec des conséquences physiques de violence, se déroule sur deux terrains. Y a-t-il une loi divine qui s'impose à la loi civile, à la loi démocratiquement votée? Et qui, deuxième terrain, deuxième débat, qui forme les consciences? Donc ce sont les grandes lois, la loi Fallou en particulier des années 1880, qui instituent l'école laïque. Et puis, on arrive à 1905, vous voyez que je vais vraiment à grands traits, la loi de séparation des églises et de l'État, ou par parenthèse, il n'y a pas le mot laïcité, mais c'est l'esprit même de la laïcité, en tout cas de sa part essentielle qui s'y trouve. Et il y a deux débats intéressants. Il y a, dans les gens qui sont contre la séparation des églises et de l'État, il y a des conservateurs, il y a une majorité relative de chrétiens, pas une unanimité. Et dans les gens qui veulent installer cette séparation des églises et de l'État, il y a deux camps. Il y a un camp qui est anticlérical, contre l'influence du clergé, et même anti-religieux. Alors on ne prononce pas la phrase de Marc, la religion est l'opium du peuple, mais l'idée y est. C'est un camp qui est emmené notamment par Émile Combes, par Chabert, député du Rhône, par Maurice Allard, député du Var. Et pour celles et ceux qui se passionnent pour l'histoire, je vous invite à voir ces débats qui sont d'une qualité extraordinaire, avec des très très grands orateurs. Et puis l'autre tendance qui veut une laïcité qui permette d'apaiser les conflits. Elle est emmenée par Aristide Briand, qui est le rapporteur de la loi, qui sera soutenu à différents moments par Jaurès et par Clémenceau. Et c'est cette tendance qui l'emporte avec des votes tantôt assez serrés, souvent assez larges. Mais il y a deux débats entre ces deux camps laïcs. Ils sont intéressants. Premier débat, faut-il interdire les processions ? Oui, répond Chabert en particulier, mais aussi Maurice Allard. On sépare les églises et l'État, c'est très bien, mais on ne va pas laisser l'influence de la religion à travers ces processions, qui en plus ont souvent un caractère très politique. Non, il ne faut pas l'interdire, répond Aristide Briand, article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, nul ne peut être inquiété pour ses opinions même religieuses, etc. C'est une question d'ordre public. Et ça vaut encore aujourd'hui, d'ailleurs, pour des manifestations à caractère religieux. La deuxième question, qui peut paraître étrange, mais qui est, donne lieu à un débat intéressant, c'est « Faut-il interdire la soutane des curés ?» Chabert, député du Rhône, interpelle Aristide Briand. Monsieur le rapporteur, je tiens à saluer le travail que vous et votre commission avez accompli, mais vous avez oublié quelque chose, oublié que vous allez certainement, sur l'heure, réparer. Il faut interdire la soutane des curés, c'est un oubli. Et Aristide Briand a cette réponse. Au risque d'étonner l'honorable monsieur Chabert, je lui dirai que le silence du projet de loi au sujet du costume ecclésiastique, qui paraît le préoccuper si fort, n'a pas été le résultat d'une omission, mais bien celui d'une délibération mûrement réfléchie. Il a paru à la Commission que ce serait encourir, pour un résultat plus que problématique, le reproche d'intolérance et même s'exposer à un danger plus grave encore, le ridicule, que de vouloir, par une loi qui se donne pour but d'instaurer dans ce pays un régime de liberté au point de vue confessionnel, imposer au ministre des cultes de modifier la coupe, au ministre des cultes de modifier la coupe de leurs vêtements. Et il ajoute ceci, si la soutane était supprimée, et si l'Église y trouvait son intérêt, l'ingéniosité combinée des prêtres et des tailleurs aurait au fait de créer un vêtement nouveau pour permettre de distinguer au premier coup d'œil un prêtre de tout autre citoyen. Et il dit même, tout le monde a le droit de porter la soutane, même les curés. Je cite cela parce que c'est vraiment assez profond en réalité sur l'esprit de la loi de 1905. Je peux peut-être vous dire un mot maintenant, avant de vous proposer une définition des cas concrets, quelques mots sur la laïcité à l'étranger. On approfondira si vous le souhaitez. Alors on dit souvent que la laïcité est une singularité française. Elle a pris une forme en France qu'on ne connaît pas ailleurs. Mais il y a un certain nombre de constitutions dans lesquelles figure le principe de laïcité. Et il y a un certain nombre de pays sur tous les continents qui ont des éléments de laïcité française. Par exemple, les pays libéraux au sens politique du terme, et d'ailleurs c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, c'est la Convention européenne des droits de l'homme, ont à peu près les mêmes définitions sur la liberté de conscience et la liberté de culte. Ce qui est peut-être le plus spécifiquement français, c'est cette neutralité, j'y reviendrai dans un instant, de l'État et des services publics. Mais vous trouvez par exemple une séparation aux États-Unis. C'est le premier amendement. On pense qu'aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec la laïcité, puisque le président élu jure sur la Bible, et puisque le dollar explique que nous avons confiance en Dieu. Et bien pourtant, il y a une séparation plus ferme qu'en France. Interdiction de subventionner, que l'État fédéral subventionne toute organisation éducative privée. Pourquoi ? Parce que le combat là-bas est différent. C'est un combat d'autonomie des États fédéraux contre un système fédéral dont on craint toujours qu'il les étouffe. Ce qui explique qu'ils aient une solution différente de la solution française. Beaucoup de pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine ont la laïcité dans leur constitution. Le Mexique, par exemple, a été sans doute le premier sur la planète à séparer les églises et l'État dans les années 1860. Vous en avez également en Afrique, le Mali, le Niger, le Sénégal. Même si l'influence des questions religieuses dans le débat public est beaucoup plus forte, beaucoup plus forte que chez nous, y compris au Sénégal, où des responsables politiques invoquent dans la campagne électorale des convictions religieuses. Et puis vous avez un cas intéressant. Il y a l'Indonésie qui, à bien des égards, qui est le premier État musulman du monde, par sa taille, qui, à bien des égards, est intéressant aussi parce qu'on va vers une forme de laïcité, au moins dans les textes. Et puis il y a aussi le cas de la Tunisie. La Tunisie, après tous les mouvements qu'elle a connus, a franchi un pas important vers la laïcité dans sa constitution. Elle reste entre deux eaux. Et la constitution tunisienne, adoptée en 2014, dit ceci, article 1er, l'islam est la religion de la Tunisie. Là, on n'est pas dans la laïcité. Article 2, le pays est un État à caractère civil. Article 6, la liberté de conscience et de croyance est un des principes de notre laïcité. Donc, à part l'article 1er, on n'est pas très loin. Et ça a été voté avec l'assentiment de la majorité du parti Ennahda. Après, les spécialistes de Tunisie discuteront sur le point de savoir si c'est un ralliement sincère, opportuniste ou pas. Mais le fait est que c'est la constitution tunisienne. J'en viens maintenant, après l'observatoire, le diagnostic, l'histoire, l'étranger, à une définition de la laïcité que je voudrais vous proposer. Et puis on passera aux exercices pratiques sur quelques cas d'actualité, mais j'épuiserai pas tout et vous en aurez sans doute d'autres à soumettre, à débattre. Je suis convaincu, nous sommes convaincus, que la laïcité, dans son principe, n'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué. Il y a des problèmes d'application, sinon il n'y aurait pas la jurisprudence, les débats, etc. Et qu'au fond, si on ne cherche pas à instrumentaliser la laïcité, en y mettant des adjectifs pour la tirer dans un sens ou dans l'autre, parfois en la déformant volontairement, en disant ce qu'elle n'est pas, des hommes et des femmes sérieux, de bonne foi, doivent pouvoir se mettre d'accord, et je l'ai constaté sur la définition que je vous donne, une définition équivalente. D'abord, la laïcité, on dit parfois que c'est une valeur, ça ne me paraît pas tout à fait exact. Ce qui sont des valeurs, c'est liberté, égalité, fraternité. La laïcité, c'est un principe politique. Et j'insiste sur le mot politique. Politique, polis en grec, la vie de la cité. C'est pas que la question de la religion, ou des convictions, ou des croyances. Un principe politique qui s'applique donc à toute la vie de la cité et qui se traduit par des règles juridiques, qui s'incarne par des règles juridiques. Et qui repose en fait sur trois piliers. Le premier pilier, je l'ai énoncé tout à l'heure en vous parlant de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est la liberté. Liberté absolue de conscience. Liberté de croire ou de ne pas croire. Liberté de changer de religion. Liberté de pratiquer sa religion, qu'on appelle communément dans les textes issus de la loi de 1905 la liberté de culte. Cet ensemble de libertés n'est pas si répandu que ça à l'échelle de la planète. Je pense en particulier à la liberté de changer de religion ou la liberté de pratiquer sa religion quand ça n'est pas la religion dominante d'un État. Avec les deux limites, ordre public, liberté des autres. Deuxième pilier, c'est la neutralité de l'État. Et quand on dit neutralité de l'État, en fait c'est la neutralité de l'État, des collectivités publiques et des services publics. Ça veut dire que quand je parle de neutralité des services publics, ça s'applique à des agents qui exercent une mission de service public, même s'ils ont un statut de droit privé, ça a été jugé par le Conseil d'État, par exemple, à propos d'une caisse primaire d'assurance maladie. C'est la conséquence de la séparation des Églises et de l'État. Et la neutralité est pour nous, dans notre esprit français, dans notre tradition, une garantie que l'on sera traité à égalité. Qu'on ne doit pas être de la bonne religion, du bon parti, pour faire valoir ses droits devant les instances publiques. Cette neutralité veut dire, a comme conséquence, que tout agent public, chargé de mission de service public, doit ne manifester aucunement ses convictions, notamment religieuses, pour garantir cette neutralité. Mais c'est une neutralité des agents publics, ce n'est pas une neutralité des usagers du service public. Et un jour, un fonctionnaire m'a dit dans une réunion qu'il était très sensible au principe de neutralité du service public, qu'il avait fait respecter un jour une dame avec un foulard s'était présentée à un guichet d'un service. Il a dit à cette dame, vous quittez le foulard ou vous quittez le guichet. C'est possible qu'on fasse un jour une loi pour dire cela. C'est un autre débat. Mais dans l'état actuel des textes, c'est non. Sauf prosélytisme, sauf trouble, etc. Idem pour des parents qui assistent à une réunion de parents d'élèves. Donc ça n'est pas la neutralité des usagers et ça n'est pas la neutralité totale des entreprises privées. On y reviendra sur un cas de jurisprudence récent, Micropole. Donc vous voyez qu'on va retrouver la devise républicaine. Liberté de conscience, qui est la base. Neutralité, donc égalité. Et puis le troisième terme qui est trop souvent oublié, c'est la citoyenneté. Nous sommes différents, c'est une évidence. D'origine, de culture, de conviction, de sentiment d'appartenance, d'histoire. Et ces différences, la République laïque proclame que c'est une source de richesse. Mais à condition que nous n'oublions jamais que nous sommes d'abord, tous et toutes, femmes et hommes, des citoyennes et des citoyens à égalité de droits et de devoirs. La citoyenneté, on ne naît pas citoyen. Il n'y a d'ailleurs aucun texte qui définisse la citoyenneté. Elle se construit. et se construit par le vivre ensemble, par le faire ensemble et par le fonctionnement démocratique d'un pays. Et c'est capital, parce que c'est cette construction-là qui fait qu'on peut gérer à la fois le respect des différences et la possibilité de fabriquer du commun, de faire nation, de faire république. Je crois que cette définition-là, encore une fois, est difficilement contestable. On peut la discuter sur le plan technique, mais sur le plan des principes, je crois qu'elle est juste. Alors, application pratique. Deux cas de figure, avant de prendre des cas qui ont déchaîné, enfin pour l'un d'entre eux, il a déchaîné un peu la chronique. Le premier, c'est celui des cantines scolaires. Ça revient régulièrement dans le débat public. Nous l'avons abordé dans notre guide sur les collectivités locales. Toujours le même schéma, que dit le droit ? Rien. Rien parce que les cantines sont un service public facultatif que la majorité des communes mettent en place quand elles le peuvent, mais ça n'est pas obligatoire, donc il n'y a pas de prescription en termes de menu. Il y a des règles d'hygiène et de sécurité, ça va de soi. Et donc il n'y a pas de permission ou d'interdiction en termes de menu. Que dit la jurisprudence ? Jusqu'à une date récente, rien. Je reviendrai sur une jurisprudence récente. Et que recommandons-nous ? Nous n'employons pas l'expression « menu de substitution ». Pourquoi ? Parce que si on parle de menu de substitution, on veut dire qu'on veut remplacer la viande de porc par autre chose pour les élèves de confession juive ou musulmane qui ne veulent pas manger de porc. Et donc on fait droit uniquement à une demande à caractère religieux. Or la laïcité, si on veut fabriquer de la communauté, elle doit rassembler, pas séparer. Donc on ne doit pas traiter que le cas des musulmans ou des juifs, en tout cas de ceux qui considèrent qu'ils ne peuvent pas manger de viande de porc. Donc nous disons il faut offrir du choix. Le choix, c'est bon pour la santé. Le choix, ça permet aux végétariens de ne pas manger de viande. Ça permet à celui ou celle qui, un jour donné, ne veut pas manger de viande, de manger autre chose. Et ça permet aussi d'avoir un plat alternatif le jour où il y a de la viande en général et pas que de la viande de porc. C'est un principe assez simple que des milliers de communes ont pratiqué depuis très longtemps. Et je regrette que, dans certains cas, on revienne sur ce qui est une pratique ancienne. Je pense au cas de Chalon-sur-Saône, où la règle que je viens d'indiquer avait été instituée par Dominique Perben en 1983, donc il y a longtemps, ne souffrait aucune contestation, et où le maire actuel, de la même sensibilité politique que Dominique Perben, a cru bon, entre deux tours d'une élection, de revenir sur la pratique qui avait été instituée par Dominique Perben. Là, on a de la jurisprudence. Il y a eu naturellement un recours. Le tribunal administratif a tenu un raisonnement intéressant. Il a dit « la France est signataire » de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et elle doit la ratifier, non seulement signer, mais ratifier. Or, que dit, sur le principe, cette Convention des droits de l'enfant ? Qu'on doit privilégier dans toute décision l'intérêt de l'enfant. Et le tribunal administratif de Dijon a estimé que la mairie de Chalon-sur-Saône n'avait pas pris en considération d'abord l'intérêt de l'enfant, ajoutant qu'elle n'avait pas fait état de difficultés pratiques, qui auraient pu être une explication. Appel. Cour administrative d'appel de Lyon, raisonnement différent. Rien dans la laïcité, dans le principe de laïcité, n'empêche de servir de menu différencié. Donc on verra ce que dira le Conseil d'État. Deuxième cas de figure, les demandes d'autorisation d'absence pour des motifs à caractère religieux en dehors des fêtes qui sont légalement fériés et chômés. Là encore, le principe est de ne traiter ni mieux ni moins bien une demande à caractère religieux, quand on pose une RTT, suivant le très beau langage contemporain, on n'est d'ailleurs pas obligé de dire pourquoi, mais ça n'est ni mieux ni moins bien. Et ça doit être traité objectivement. Pour un chef de service, un manager, public ou privé, est-ce que si je fais droit à cette demande ou à ces demandes, ça va compliquer la vie du service, ça va désorganiser le service, le bureau, l'atelier ? Alors je suis parfaitement en droit de dire non. Et si ça ne cause pas de désordre, si ça peut se gérer, je peux dire oui. Mais encore une fois, quelle que soit la demande, que ce soit parce qu'on a un deuil, une obligation administrative, une obligation familiale. C'est cet esprit de la laïcité qu'il faut toujours garder en tête. Alors, quelques autres questions. J'irai assez vite, mais de toute manière, j'ai pratiquement jusqu'à 8h25, 8h30 pour qu'on laisse du temps à la discussion. Les parents accompagnateurs de sortie scolaire, ça ressurgit régulièrement. Les parents accompagnateurs de sortie scolaire, et je précise que dans tous ces débats sur la laïcité, sur les règles de laïcité, nous disons toujours que le débat intellectuel, politique, philosophique, démocratique est libre, qu'on peut souhaiter, vouloir, exiger, recommander des évolutions de la laïcité. Je dirais dans un instant ce que nous en pensons à l'Observatoire. Mais une chose est de dire nous voudrions que la loi change, nous voudrions que la jurisprudence change, ce qui est un peu difficile parce que ce n'est pas une proclamation politique qui fait facilement changer la jurisprudence, de dire ce qu'est le droit, ce qu'est la jurisprudence. Pour les parents accompagnateurs de sortie scolaire, il y a eu une étude du Conseil d'État qui a été remise, voilà bientôt 3 ans, un peu plus même, 4 ans, à la demande du défenseur des droits, ce qui est une procédure très rare. Mais le défenseur des droits, dans ses capacités juridiques, peut demander, sur un sujet qui le préoccupe, l'avis et l'étude du Conseil d'État. Ce que dit cette étude du Conseil d'État est de dire il n'existe ni dans la loi, ni dans les textes de loi, ni dans la jurisprudence, de tierce catégorie entre collaborateurs du service public et usagers du service public. On emploie évidemment l'expression collaborateur occasionnel du service public, c'est pour des raisons d'assurance, et c'est en particulier pour couvrir, d'un point de vue assurantiel, quelqu'un qui vient porter secours lors d'un feu, d'un incendie dans un établissement scolaire, pour prendre cet exemple-là. Donc, il n'y a pas d'obligation de neutralité générale pour les parents accompagnateurs. Mais bien entendu, pour le bon fonctionnement de l'école, s'il y a du prosélytisme, si ça crée des conflits, si ça crée du désordre, alors on est en droit de dire non, soit à une catégorie particulière, soit à une personne particulière. Ce qui d'ailleurs a été repris par la jurisprudence. Autre sujet complètement différent, moins important, mais qui a défrayé la chronique, on en parlait tout à l'heure, le hijab de course. La société Decathlon a annoncé son intention de mettre en vente des hijabs de running, comme on dit maintenant. Ce que faisaient d'autres, ce que font d'autres établissements, mais eux ne le faisaient pas jusque-là. Et ça suscitait un débat, vous l'avez vu, d'une rare violence, avec des agressions et des insultes pour les malheureux vendeurs de Decathlon dans leur magasin. Et finalement, la direction a dit « Oh là là, je retire le produit ». Que peut-on dire du point de vue de la laïcité ? C'est qu'il n'y a pas d'interdiction de porter tel ou tel type de vêtements. Ça vaut aussi, par parenthèse, pour le burkini. Le burkini sur les plages, on peut trouver ça détestable, on peut trouver ça une régression par rapport aux droits de la femme, on peut trouver ça au contraire comme une occasion pour les femmes de... La seule question, c'est l'ordre public. Est-ce que ça trouble l'ordre public ou pas? Est-ce qu'on peut régler la question à l'amiable ou s'il y a des problèmes? Et en général, le Conseil d'État, dans une série de décisions, a estimé qu'il n'y avait pas de trouble à l'ordre public dans les cas qui lui avaient été soumis. Quant au hijab de running, encore une fois, un magasin est libre de le vendre, une femme est libre de le porter, à condition, toujours la même chose, de ne pas faire de prosélytisme, de pression, de ne pas créer du trouble ou du désordre. Donc on distingue bien l'appréciation politique, féministe, intellectuelle, de conviction, qui est libre, du droit qui est, elle a le droit. Et ça vaut aussi, je le disais tout à l'heure, pour le burkini, où il y avait eu il y a 2 ans, 3 ans, une fièvre, une épidémie d'arrêtés anti-burkini sur les côtes de la Méditerranée, dans des cas où on n'avait jamais vu d'ailleurs un burkini, mais on craignait d'en voir un, donc à titre préventif. Et un jour, j'ai dit, dans une émission de radio, ça me rappelle le gendarme de Saint-Tropez, où le maréchal des logis chefs Cruchot, caché derrière des buissons, scrutait à la jumelle pour voir s'il y avait des seins nus. À peine ai-je dit cela que je reçois une vidéo dont j'ai vérifié que ce n'était pas un fake, dans laquelle on voit sur un canot pneumatique des policiers municipaux, je ne sais plus si c'est de Cannes ou du Canet, avec des jumelles, regarder dans l'eau si c'est une combinaison de plongée ou si c'est un burkini. Et sommet dans cette histoire du burkini, le cas corse. Un matin, j'entends à la radio affrontement intercommunautaire en Corse. La communauté maghrébine contre la communauté corse. Et puis ça tourne en boucle. Sur les réseaux sociaux, sur les chaînes d'information continue, dans un certain nombre de déclarations politiques. Je fais ce que beaucoup de gens auraient pu faire. Ce n'est pas un privilège exceptionnel. J'appelle d'abord des amis corses et le sous-préfet de Bastia, puisque ça s'était passé près de Bastia. Et en 1 heure ou 2, j'ai à peu près compris ce qui se passait, ce qu'un journaliste normalement constitué aurait pu faire, comme moi, et ce qu'un certain nombre de responsables politiques auraient pu ou dû faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une petite crique, pas très loin de Bastia, où il y a un groupe de jeunes Corses marocains. Est-ce qu'ils sont de nationalité marocaine? Est-ce qu'ils sont d'origine marocaine? Je ne le sais pas. Il n'y a pas de burkini. Ils sont sur la plage. Certains se baignent. Et un touriste, il se trouve être belge, mais ça ne sort rien à l'affaire, photographie la crique et les photographie eux aussi, ce qui ne leur plaît pas. Donc ils échangent quelques insultes et quelques coups. Sur ce, le touriste belge va au village principal, ameute les Corses en disant on va quand même pas se laisser faire par les Corses marocains. Et on fait une expédition pour expliquer ce qu'il faut expliquer à ces Corses marocains. De nouveau, échange de quelques insultes, peut-être de quelques coups. La cerise sur le gâteau, c'est que les deux chefs avaient un casier judiciaire. Et la cerise sur le gâteau, etc., c'est qu'ils avaient été tous les deux au même lycée. Voilà ce que sont les affrontements intercommunautaires entre la communauté corse et la communauté maghrébine en Corse. Mais ça reste une trace dans l'esprit. Les gens n'ont pas suivi les épisodes, donc on s'est dit, voilà, en Corse, c'est beaucoup plus tendu encore qu'ailleurs. J'énumère, hein, micropole, donc, l'entreprise. Alors, pour l'entreprise, il y a parmi vous des tas de gens compétents et d'excellents juristes, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a trois strates. La première strate, qui est quand même la base que nous recommandons, nous, aux entreprises et aux syndicats de suivre, c'est la jurisprudence, qui dit qu'il peut y avoir des cas où le chef d'entreprise peut légitimement interdire l'expression de convictions religieuses. Il y a 7 cas qui touchent à la protection, à l'hygiène, à la sécurité, à la protection par rapport au prosélytisme, à l'intérêt commercial de l'entreprise, à l'image de l'entreprise, qui sont parfaitement répertoriés et qu'on a signalés. Et puis, il y a eu la loi dite El Khomri, qui a eu un amendement parlementaire, qui est maintenant son article 2, dont je ne sais plus le numéro dans le code, qui dit une entreprise peut imposer dans le règlement intérieur la neutralité à condition de ne pas porter atteinte à d'autres libertés ou droits fondamentaux. Avec tout le respect dû pour le Parlement, j'ai été moi-même pendant 15 ans membre du Parlement, je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que ça veut dire, parce que si on dit d'autres libertés ou droits fondamentaux, quelle est la liberté ou le droit fondamental qui est impliqué par le fait d'avoir un règlement intérieur imposant la neutralité? Ce n'est pas tout à fait évident, et la formulation est tellement vague que je souhaite bien du plaisir au Conseil constitutionnel le jour où il aura à se pencher sur ce sujet. Néanmoins, en pratique, il y a un troisième étage qui a joué un rôle plutôt clarificateur. Ce sont deux arrêts, parce qu'il y avait un cas belge et un cas français, de la Cour de justice de l'Union européenne. Là, on n'est plus dans la Cour européenne, la Convention européenne des droits de l'homme. Un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 24 mars, deux arrêts, 2017. Et qui dit, on peut avoir une clause de neutralité dans le règlement intérieur, ça n'est pas une discrimination directe. Mais il faut veiller à ce que ce ne soit pas une discrimination indirecte. C'est-à-dire qu'en fait, ce ne soit pas utilisé pour stigmatiser ou pour faire appliquer cette neutralité à une seule catégorie de personnes. Et le cas concret qui a été cité par la Cour de justice de l'Union européenne, qui a été validé dans le même sens par la Cour de cassation et maintenant par la Cour d'appel au fond, c'est un cas d'une salariée d'une entreprise d'informatique qui exerçait une mission de conseil dans une entreprise et l'entreprise trouvait déplacé, gênant, choquant qu'elle ait un foulard. Et donc, Cour de justice de l'Union européenne, Cour de cassation et Cour d'appel ont dit que dans le cas en question, le licenciement n'était pas justifié. Autre question, les fermetures d'écoles. Il y a un conflit en ce moment autour de Marseille. Et il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises, à notre avis, à juste titre, par le ministère de l'Éducation nationale pour meilleur contrôle des établissements privés hors contrat. C'est quelque chose sur quoi nous avions attiré l'attention. Ça vaut aussi pour l'enseignement à domicile, qui peut couvrir des pratiques tout à fait répréhensibles, sectaires ou fondamentalistes. Le gouvernement précédent, la ministre précédente, Mme Najat Vallaud-Belkacem, avait voulu introduire une clause d'autorisation préalable, et non pas de déclaration préalable, pour les établissements privés, même non conventionnés. Sur recours de la majorité sénatoriale, le Conseil constitutionnel avait jugé que c'était contraire à la liberté d'enseignement. Et donc le dossier a été repris sur la base d'une proposition de loi d'une sénatrice UDI, Françoise Gatel, qui a été adoptée en avril 2018 et qui renforce les moyens d'avoir des contrôles. Il y a les questions d'ordre public, de bonne mœurs, de programmes, etc. Et c'est donc sur cette base-là que des contrôles sont faits avec à la fois les aspects d'hygiène, de sécurité, de fiscalité et les questions liées à l'enseignement. C'est tout à fait important parce qu'on s'aperçoit que sous couleur d'établissements privés hors contrat se développent des propagandes contraires aux lois de la République et donc il est nécessaire là aussi de montrer, même s'il n'y a pas une autorisation préalable, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors sur le fond du dossier, je ne connais pas le dossier de Marseille, le ministre a parlé d'inspiration salafiste, c'est pas suffisant. Il y a des tas de choses dans le salafisme. Mais je pense qu'il y a des choses dans les programmes et qu'on verra sortir qui justifient la position d'interdiction qu'a prise le ministre. Il y a enfin la loi de 1905, la modification de la loi de 1905, pour laquelle les déclarations du président de la République dans sa conférence de presse me paraissent tout à fait opportunes et juridiquement justifiées, en disant qu'il ne fallait pas toucher, politiquement justifié, à la loi de 1905, qui établit un équilibre qui donne satisfaction, même si on a des problèmes d'application. Parce que sinon, c'est moi qui parle, c'est pas le président de la République, c'est ouvrir la boîte de Pandore à n'importe quoi. Et, par contre, le gouvernement a deux objectifs, nous ne sommes pas prononcés formellement, nous n'avons pas été saisis, mais j'ai eu l'occasion de m'exprimer, qui paraissent légitimes. Le premier, c'est d'accroître la transparence dans le financement des associations cultuelles ou des associations chargées d'un culte, et d'accroître le contrôle. Nous avions dit dans un avis de 2016 que c'était déjà possible. Il n'y avait pas besoin d'une loi ni même d'un règlement, faire une circulaire, et qu'on pourrait contrôler sur pièce et sur place les finances des associations gérant des cultes. Le deuxième point touche à la police des cultes, c'est l'article 31 de la loi de 1905, sur lequel le gouvernement estime nécessaire, il y a en plus des problèmes de codification, de renforcer ou d'actualiser les mesures prises lorsque sont tenus des propos contraires aux lois de la République dans un établissement cultuel, ou lorsque sont faites des pressions pour obliger quelqu'un à assister à un culte ou pour empêcher quelqu'un d'assister à un culte. Ce que nous avons indiqué au ministre de l'Intérieur, au Premier ministre et au Président de la République, c'est que il ne nous paraissait pas certain que la loi soit indispensable dans tous les cas, et que s'il fallait la loi, il faudrait mieux ne pas passer par la loi de 1905, comme ça avait été fait sous la précédente mandature, pour supprimer, à notre demande, le délit de blasphème en Alsace-Moselle, qui pouvait substituer par une conjugaison du droit allemand et du droit français. Ça a été fait dans une dernière loi du quinquennat précédent. Je termine par quelques mots de conclusion. Nous nous sommes interrogés sur pourquoi ces questions de laïcité déclenchent tant de violence et de passion. Il y a plusieurs raisons qui ne sont pas liées à la question laïcité anti-religieuse ou pas principalement. Il y a d'abord la question de l'islam. C'est une évidence que l'islam, qui est la deuxième religion de France, comme on n'a pas de statistiques, on n'a pas de certitude, mais Arnaud Chaumas vous en parlera mieux que moi sur le nombre de musulmans. Et en plus, qu'est-ce que c'est qu'être musulman ou qu'être catholique? Est-ce que c'est déclaré musulman ou catholique? Est-ce que c'est pratiqué de temps en temps? Est-ce que c'est pratiqué régulièrement? Tous les sondages sont à voir avec précaution, mais ça, Arnaud vous expliquera très très bien l'état des connaissances sur le sujet. Ce n'est pas notre culture dominante. La visibilité est beaucoup plus grande. Et c'est une religion qui semble en croissance. Là encore, nous avons fait un travail qu'on va rendre public, je pense, à la rentrée, sur la visibilité religieuse dans l'espace public, travail avec des chercheurs et des scientifiques. Est-ce qu'il y a plus de croyants? Une majorité de nos compatriotes sont non-croyants. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le chiffre dépend de la manière dont on pose la question, c'est-à-dire athée, agnostique, indifférent, etc. Est-ce que les croyants ont une pratique plus grande? Probablement, en tout cas, certaines fractions au sein du catholicisme, du protestantisme, c'est les évangéliques en particulier, et de l'islam. Alors on a des débats sur faut-il organiser l'islam. Le président de la République a opportunément rappelé qu'il n'était pas question de faire un concordat comme certains avaient mis l'idée, ce qui serait à la fois complètement contraire à la loi de 1905, contraire à la Constitution, enfin tout ce qu'on veut, et en plus complètement inefficace, et que c'est aux musulmans eux-mêmes de s'organiser, ce qui prend du temps et ce qui n'est pas simple. Alors il y a des questions aussi sur l'islam, est-il compatible avec la République, soluble dans la République, soluble dans la laïcité? On peut en discuter, c'est une discussion philosophique et politique qu'on peut avoir. Nous nous plaçons sur un terrain différent. Peu importe la religion, peu importe l'habit, ce qui compte c'est les paroles et les comportements. Est-ce qu'il y a des paroles ou des actes contraires aux lois de la République, pas seulement au principe de laïcité? Application concrète, une femme qu'on refuse de servir dans un restaurant. Même raisonnement pour une femme qu'on refuse de servir, non pas parce qu'elle est femme, mais parce qu'elle a un foulard. C'est le même raisonnement. Cette femme est en droit, ces femmes, de porter plainte. Ce n'est pas la peine d'invoquer la laïcité, c'est une discrimination à l'égard des femmes et c'est un refus de vente. Si elle ne peut pas porter plainte, il y a certains quartiers où ça n'est vraiment pas possible, une association peut le faire. Mais si l'association ne peut pas le faire, nous avons demandé au gouvernement, qui est une instruction à donner au procureur, pour que le procureur, les faits ayant été vérifiés, porte plainte au nom de la République. Donc nous avons un accueil de principe favorable, j'aimerais que cet accueil de principes favorables se traduise dans les faits, parce que c'est très important de ne rien laisser passer, et encore une fois sur des faits, sur des comportements et sur des paroles, et pas sur le fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas telle variété de religion. Et puis il y a bien sûr la question sociale. Quand je vais souvent dans des quartiers prioritaires parler de liberté, d'égalité, de fraternité, vous voyez bien ce que peuvent me dire les jeunes sur la discrimination en fonction du quartier où l'on vit, avant même d'être musulman ou supposé musulman. Et donc cette question sociale, cette question des discriminations qui reste très forte, notamment à l'embauche, et notamment dans le secteur privé, mais parfois aussi dans le secteur public, pèse très lourd dans la vision qu'on a de la laïcité. Et Jaurès disait déjà en 1904, la République doit être laïque et sociale, elle restera laïque si elle sait rester sociale. Puis le troisième point, c'est la question d'identité. Notre identité personnelle, c'est-à-dire nos convictions, comment nous les équilibrons, les concilions, les fabriquons. Et puis la question d'identité de la France, qui n'est pas une question interdite, à condition bien entendu de la poser dans toute sa dimension et pas en disant, comme ça avait été avant le cas, identité et immigration. C'est tirer un peu vite la conclusion que l'immigration empêche la survie de notre identité historique. Encore une fois, débat qu'on peut avoir sur le plan historique et politique, mais ce débat, je pense qu'il est normal qu'on l'ait. Et je vous dirai pour terminer mes convictions, la France est d'abord une histoire que nous devons assumer dans ses grands moments et dans ses mauvais moments. Et c'est une histoire qui doit être partagée, y compris quand on n'est pas né français, mais devenu français. On est les héritiers aussi de cette histoire. Et c'est une histoire qui ne doit pas être... qui ne doit pas oublier une partie de l'histoire, si je puis dire. Et notamment de l'histoire des Outre-mer. Je prends un exemple. Abdelkader. Dans les manuels d'histoire, on parle d'Abdelkader. On dit que c'est quelqu'un qui a combattu violemment, vigoureusement, la colonisation française et qui avait un machin folklorique qui s'appelait la Smala. C'est tout juste si la Smala, ce n'est pas le harem. Il se trouve que la Smala, cette situation politique, c'est la tente, toutes les tentes à égalité de distance de la tente du chef. Mais peu importe. La suite de l'histoire d'Abdelkader, c'est qu'il s'est rallié aux valeurs de la République et de la France, qu'il est devenu franc-maçon et qu'il a protégé des chrétiens en Irak qui étaient attaqués par des musulmans. Donc si on parle d'Abdelkader, parlons de tout Abdelkader, pour que chacun puisse s'y reconnaître, quelle que soit son origine ou ses convictions. C'est évidemment une langue, qui nous donne un pouvoir d'influence considérable. C'est les droits de l'homme. C'est un modèle qui vient en partie des États-Unis et d'Angleterre, mais qui vient aussi de chez nous. C'est évidemment la laïcité et la République, mais pas que. Notre identité ne se réduit pas à la laïcité et la République. Et puis, ça devrait être un projet, une vision d'avenir. Et moi, je souhaiterais que dans le débat public, sur ce que j'ai dit, la langue, l'histoire, j'aurais dû ajouter la volonté de vivre ensemble, référendum de tous les jours, la laïcité et la République, je pense que beaucoup de républicains doivent pouvoir être d'accord. Puis après, il peut y avoir des choix sur le type de société que nous voulons. Voilà ce que je voulais vous dire, en vous remerciant de votre attention. Et maintenant, je suis prêt à vous écouter pour des témoignages, des interventions, à répondre à vos questions.